10h20, on est le 20 janvier. Et aujourd'hui, exactement un an que le président des États-Unis a pris les vœux pour je ne sais pas très bien ce que c'était ses vœux, mais il a prêté serment, disons. Je dis ça, c'est presque une anecdote qui, puisque c'est aujourd'hui. Bon. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se penche sur nos intentions pour l'année à venir. Ça, c'est globalement, mais nos intentions pour ce week-end, nos intentions pour nos vies en général, nos intentions pour cet instant, nos intentions pour l'heure qui suit, etc. Par exemple, moi, pour l'heure qui suit, là, qui commence, mon intention, c'est de parler, d'essayer de partager quelque chose avec vous. Je peux creuser plus et dire quelle est mon intention en voulant partager, quelle est mon intention, de quoi je veux partager, je cherche à partager. Je peux vraiment creuser profondément mes intentions. Et alors, la pratique que je propose, c'est une pratique que j'ai entendue, j'ai lu quelque part par un maître tibétain. Je crois que je l'ai lu quelque part. Et donc, c'est pas exactement comme lui l'a proposé, mais plus ou moins. Et ça avait trois étapes. La première étape, c'était de rester avec cette question. Quelles sont mes valeurs les plus profondes? Quelles sont mes motivations les plus profondes? Je crois que j'ai noté les points. Oui, qu'est-ce que je souhaite pour moi-même, pour mes proches, pour le monde? Et quelles sont mes valeurs les plus profondes? What do I value most deeply, dirait en anglais. Donc, la première étape, c'est de se poser ces questions. La deuxième étape, c'est de rester avec ces questions. Exactement comme un Coran où on va se poser cette question et on va rester et il y aura des choses qui viennent, mais ça n'épuise pas le sujet. On continue, on reste avec ces questions. Se posant la question, s'ouvrant et les différentes possibilités. Ah oui, mes valeurs les plus profondes, c'est le pays dans le monde, je ne sais pas. Qu'est-ce que je souhaite pour moi-même de ne pas être agressif avec mon mari, ou qu'est-ce que je souhaite pour mes proches, qu'ils réalisent leurs rêves, je ne sais pas. C'est ce genre de questionnement qu'on se fait. Et donc, première étape, c'est de dire ok, je vais questionner ces choses. Deuxième, c'est de rester avec des questions. Et la troisième étape, c'est de, si on peut, arriver à formuler quelque chose à ce propos. Donc, aujourd'hui, puis-je être plus conscient de comment je parle. Aujourd'hui, puis-je être plus conscient de s'occuper mieux de mon corps. Aujourd'hui, est-ce que je peux éviter, puisse-je éviter de faire du mal Si c'est, ça correspond à ce que c'est mes intentions. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être ce week-end, ça peut être l'année. Et puisque notre sujet du week-end, c'est l'année à venir, ça peut peut-être être formulé de cette façon-là. Pour cette année, je puisse être plus attentif à. Ça peut être à mon compte en banque, hein. Pas dépenser trop d'argent, je sais pas. Ça peut être très prosaïque. Ça peut être plus. Oui, est-ce que je puisse porter moins de jugement sur mes collègues ou sur mon partenaire ou je puisse être plus attentif à ce qui est notre but si je travaille en équipe. Est-ce que je puisse être plus attentif à ce qu'on fait comme équipe? Quel est notre projet? Est-ce que je puisse être plus attentif à ça? Je ne sais pas. C'est des choses très concrètes. Mais ça peut être plus général. Puis, est-ce que je puisse prêter plus attention à mon esprit, ma parole et mon corps? Les trois choses qu'on chante tout le temps. Donc ça, c'est les trois étapes de cette pratique. Et je propose que aujourd'hui, on essaie de faire ça, chacun. On essaie de regarder quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous est cher, quelle est ma motivation, peut-être même. J'ai eu quelqu'un qui disait si les intentions peuvent être on peut utiliser ça comme un checkpoint. On peut revenir à nos intentions tout le temps pour vérifier si on continue sur le chemin qu'on veut. Et elle donnait l'exemple, elle vit à San Francisco. Elle dit, si je vais de San Francisco à Seattle, qui est au nord, le soleil, c'est comme mon intention, c'est l'équivalent d'une intention. Je dois constamment vérifier que le soleil est en train de se coucher à gauche sur mon chemin. Sinon, je ne vais pas arriver à Seattle. Donc, c'est ça, nos intentions peuvent servir comme ça, comme des points sur lesquels on peut revenir. Mon intention. Est-ce que là, en ce moment, je suis en train de parler avec agression? Est-ce que je suis en contact avec la situation, la personne, les circonstances? Ou est-ce que je suis en train de projeter ce que moi je pense ça doit être, de juger la situation, plutôt que mon intention était de ne pas juger? Est-ce que je suis en train de juger? Je peux revenir à mon intention. J'aimais bien cet exemple que j'ai lu, le soleil, parce que c'est très concret. Bon, évidemment, elle a probablement un GPS, ou elle connaît la route, donc elle va juste suivre, je sais pas si c'est quoi cette route qui fait toute la côte ouest, Highway 1, ouais, je sais pas. Et elle sait que si le Pacifique est à gauche, bah, c'est bon, hein. Ou cet été, j'étais à Chicago. Et j'avais toujours cette idée que Chicago était sur le point sud du lac Michigan. Dans ma tête, c'était toujours au sud. Et j'étais chez ma fille et son compagnon, qui est originaire de Chicago, son compagnon. Et il me dit, mais non, pas du tout. Parce que je lui dis, est-ce que telle ou telle chose, tel ou tel endroit est à l'est? Et il m'a dit, bah, à Chicago, à l'est, c'est toujours le lac. Donc, peut-être qu'il y a tel ou tel endroit qui est à l'est d'ici, mais c'est toujours le lac qui est à l'est. Donc, si vous êtes en ville, vous regardez par là, le lac est là, bah, vous savez que vous allez au nord, et si le lac est de l'autre côté, vous savez que vous allez au sud. Et c'était intéressant comme observation. ça changeait tout. Je pouvais toujours me situer, sachant que le lac était tout, si j'allais au nord, le lac était à l'est. Et vice-versa, c'était à l'ouest aussi. C'était à gauche ou à droite, disons, pas à l'est et à l'ouest. Et ça servait comme quelque chose, je pouvais me rappeler si j'étais sur le bon chemin ou non. Et les intentions, c'est comme ça. D'où l'intérêt de faire les intentions, de revenir à les intentions en début d'année. Comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, je crois que c'était un vendredi soir ici, les Tibétains, les pratiques tibétains, ils commencent chaque méditation avec une sorte de compte-rendu de leurs intentions. Ils vont poser les intentions au début de la période d'assise. Et à la fin, ils vont faire, bon, c'est un autre compte-rendu, le cercle est bouclé et ils vont revenir et dire, faire une sorte de dédicace pour voir si, qui va refléter s'ils ont fait, si leurs intentions étaient maintenues pendant la période. Ça, c'est une autre étape de dédicace. Et, mais ça, peut-être, puisqu'on fait ces vœux, ces intentions, disons, là, ce sera bouclé dans un an. Donc, au début de 2019, on peut regarder pour voir si nos intentions, si on était fidèle à nos intentions, si on a vécu pleinement nos intentions pendant 2018. Et c'est pas une histoire de est-ce que j'ai réussi ou pas réussi. Et il n'y a pas de. C'est pas. Il faut trouver les bonnes intentions ou les mauvaises intentions. C'est pas ça. C'est est-ce que vos intentions sont en accord avec vous, votre pratique, ce qui est profondément important pour vous, pour chacun. Et ça, c'est pour chacun. Évidemment, on peut revenir à les. On chante chaque soir à la fin de la méditation les quatre vœux. Et ça, c'est des intentions globales qu'on a tous, qu'on partage si on s'engage dans une pratique bouddhiste. Pratiquement toutes les différentes traditions ont ces vœux. Et ça, c'est les intentions. Quelle est l'intention de cette pratique? Et le zen, bon, on dit que c'est bouddhiste, mais c'est vraiment marginal, hein. C'est vraiment sur la limite de ce qui est bouddhiste ou non. Et quand même, on partage ces intentions, ces quatre intentions.
Pourquoi tu dis ça?
Que c'est un peu sur la marge. Parce que si on pousse vraiment, si on va vraiment au fond, fond, fond de ce que c'est le zen, il n'y a même pas de Bouddha. Il n'y a rien. Et on ne peut pas. On dit si tu rencontres le Bouddha sur le chemin, tue-le. D'autres traditions ne vont pas dire ça. D'autres traditions bouddhistes ne vont pas dire ça. On n'a pas de gourou, on n'a pas de déité, de visualisation, etc. comme ça, comme il y en a dans d'autres. Les sutras sont vraiment. On dit que c'est un enseignement qui est en dehors des sutras. C'est d'une certaine façon hérétique. Non, comment on dit en français?
Hérétique.
Hérétique.
Hétérodoxe.
Oui. De dire que, bon, ça c'est considéré comme un texte sacré, et nous on dit que ça n'a rien à voir. C'est en dehors de ça. Bon, en même temps, on chante ses vœux où c'est la voix du Bouddha. Mais c'est la voie de Bouddha parce que c'est notre voie. C'est juste que lui, il a formulé ça. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a formulé que c'est respecté ou qu'on a l'intention de suivre parce qu'il l'a dit. On a l'intention de le faire parce que c'est le nôtre. C'est notre chemin. C'est une petite regarde sur ça. Et je dis ça parce que tu lui demandes et donc il faut lire quelque chose. Normalement, je ne pense pas à ces choses. Normalement. Quand je dis oui, je pratique le zen, je ne réfléchis pas. Est-ce que c'est... Et souvent, je ne dis pas je fais la méditation bouddhiste. Je ne dis pas j'ai une pratique bouddhiste. Je ne dis pas que c'est un centre bouddhiste ici. Je dis c'est un centre zen.
J'ai eu la question hier.
Quoi ?
J'ai eu la question hier.
Oui, est-ce que c'est bouddhiste ou est-ce que c'est zen ?
Est-ce que c'est une religion, etc.
Ouais, voilà. Oui, on peut considérer que bon, le bouddhisme, c'est une religion, etc. Et on dit que le zen, non.
Et toutes les lignées du zen disent ça ?
Généralement, oui. Enfin, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais c'est très connu qu'il y a des rabbins qui pratiquent le zen et qui enseignent même le zen. Il y a des prêtres catholiques, il y a des soufis, tout est possible. Bon, et je sais que par exemple, il y avait un couple, bon maintenant la femme est morte, mais en Suisse, un prêtre et un nonne qui avaient un centre ensemble, c'était radical déjà pour l'Église catholique, qui vivaient ensemble mais qui n'étaient pas amants, disons. C'était une relation spirituelle, c'était un couple spirituel, disons, un prêtre et un nonne. Et ils avaient ce centre et leurs deux communautés étaient là ensemble, les femmes et les hommes. Et ils avaient découvert le zen et ils pratiquaient et ils enseignaient le zen dans ce centre. Il y avait une chapelle, mais il y avait aussi un zendo. Et ils faisaient des cérémonies catholiques, etc. Mais ils faisaient aussi des cérémonies zen. Alors, c'était difficile pour eux de convaincre l'hiérarchie catholique, c'était en Suisse, d'accepter ça. Mais puisque c'était des gens très sérieux et qui respectaient toute l'orthodoxie du catholicisme plus ou moins parce que c'était peu orthodoxe de vivre ensemble, etc. C'était accepté et curieusement c'était plus accepté pour lui que pour elle. Elle avait plus de mal avec ses supérieurs. Les mères supérieures dans son tradition étaient beaucoup plus dubitatifs, non, on dit ça, mm-hmm. Que l'hiérarchie monastique des prêtres. Et ces gens-là, ils ont reçu des transmissions, c'était les maîtres zen, et ils étaient aussi. Prêtre et nonne. Alors pourquoi il y avait cette bifurcation ? Ah, dans la religion, oui. Et on a des rabbins, Rabbi Singer, qui est un peu étrange, mais enfin qui est excentrique, disons, mais qui est quelqu'un de très profond. Hein. C'est un rabbin qui chante et qui nous chantait à Auschwitz des chansons exaltantes. Mais tout est possible. Pourquoi on disait ça ?
Tu parlais des des Tibétains et qu'on chantait les vœux, mais nous on était un peu à la limite du bouddhisme.
Oui, c'est ça, mais on a toujours ces mêmes vœux. On a ces mêmes vœux, ouais. Et curieusement, on était à Limoges, dans ce centre tibétain, ils avaient sur le mur 4 calligraphies en japonais, des magnifiques calligraphies, 4 comme ça. Et j'étais allée voir, et il y avait à côté des traductions de ce que c'était. Et c'était une traduction un peu curieuse, mais c'était les 4 vœux, tu te souviens ? Qui étaient faits par Kōben Shinō, un Roshi qui était lié avec Trungpa, non, c'était le centre à Limoges. Mais ce qui était curieux, c'est qu'ils n'étaient pas ni écrits comme ça, ni pendus, non, comment on dit pendu ?
Suspendus
dans l'ordre dans lequel on le récite, nous. Et ça m'avait travaillé toute la semaine, essayant de comprendre si, parce que c'était en japonais, ça devait être lu dans l'autre sens, ou, mais ça n'expliquait pas pourquoi ils étaient écrits dans cet ordre-là, ou si, parce qu'ils étaient suspendus dans cet ordre-là, ça devait être lu dans l'autre sens, mais quand ils l'ont transcrit, ils ont transcrit dans ce sens-là, je n'arrivais pas à comprendre. Et la personne dans le centre avec qui on discutait me disait, mais non, c'était exprès, ça devait être suspendu dans cet ordre, et c'était exprès que c'était écrit dans cet ordre. Je ne sais toujours pas pourquoi. Ceci dit, je me suis dit, mais pourquoi pas ? Pourquoi ça doit être dit dans l'ordre dans lequel on le dit ? Pourquoi pas ? Je ne me souviens pas d'ailleurs si c'était le contraire, l'ordre était le contraire, tu te souviens ?
Non.
Tu n'étais pas préoccupé par cette
histoire. Non,
pas du tout. C'était mon petit sujet privé. Et comme les traductions n'étaient pas exactement, il a fallu interpoler un peu, mais je suis sûre que c'était ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi ça doit être dit dans cet ordre-là ? En fait, c'est circulaire et c'est sans ordre. Ce qui était important, c'est qu'il y avait cette intention. Et je pense qu'il y avait ces vœux-là, hein, parce que cet Roshi japonais qui était lié avec le maître du lieu l'avait fait, et c'était esthétiquement très beau. Mais je pense aussi, et il a confirmé, qu'ils ont des vœux similaires dans leur pratique. Et donc, c'était... Et peut-être, je n'ai pas allé chercher aussi loin, peut-être qu'ils étaient suspendus dans l'ordre que eux ils récitent des vœux, je ne sais pas. Mais peu importe quel ordre. Est-ce qu'on peut se donner la possibilité de... de ne pas être en ordre. Est-ce qu'on a cette... est-ce qu'on peut désobéir? Est-ce qu'on ne peut pas... on peut ne pas suivre les règles. Donc les règles étaient qu'il faudrait être dans l'ordre que nous on le chante, mais pourquoi pas. Peut-être on devrait essayer de chanter les vœux dans un autre sens. Ce serait difficile parce qu'on est tellement habitué de les chanter d'une certaine façon. Mais... ce qui reste important, c'est quelle est notre intention en chantant ces vœux. Quelle est notre intention? On a cette... il y a Bernie Glassman qui dit que quand on chante le sutra du cœur, si on chante vraiment, si on chante vraiment, si on est entièrement chant quand on le fait, il suffit de chanter la première syllabe. Et en français, c'est Avalokiteshvara. Donc, ah, si on s'y donne entièrement à ah, c'est fait. On n'a pas besoin de chanter le reste. C'est notre intention, c'est de nous donner entièrement, disons, d'être un avec ce qu'on fait, d'être un avec le monde, l'univers, tous les êtres, etc. Bah, ah, ça suffit. Si c'est fait entièrement, si on s'y donne complètement. Et ça, c'est l'intention. Quelle est mon intention quand je chante le Sutra du Cœur? Quelle est mon intention quand je chante les vœux? Et ça change radicalement si on est en phase avec notre intention. Dans notre tradition, dans le Zen, il y a le sixième patriarche, on dit, qui est considéré comme qui est vu comme un personnage très important dans notre lignage. Il était en Chine dans le 8e, 9e siècle. Et c'est lui qui était, illettré, pauvre. Son père est mort quand il était très jeune, et donc il devait soutenir sa mère et gagner sa vie en coupant du bois et le vendant sur le marché. Et un jour, il entend quelqu'un qui récite un sutra du diamant, et sur le marché. C'était une époque qui est appelée l'âge d'or du Zen, et il y avait beaucoup, c'était fleurissant la pratique, etc. Et quelqu'un sur le marché récitait ce sutra. Et ce jeune homme entend le sutra, et il entend une phrase qui était... je ne sais pas comment traduire ça en français, faire venir une pensée qui n'est pas soutenue, qui n'est pas qui ne dépend de rien d'autre, tout comme ça. Et entendant ça, ça ne lui parle, il y a quelque chose qui en lui qui résonne, et il demande à la personne qui récite ce que c'est. Et il dit, où est-ce que je peux apprendre plus sur ça? Et personne dit, voilà, je connais quelqu'un qui m'a appris ça, qui connaît beaucoup, allez le voir. Et donc, il demande à sa mère s'il peut le faire, qu'il veut poursuivre ce chemin, etc. Il va le faire. Finalement, c'est une famille, il reste avec cette famille, et il y avait un autre sutra qui était récité, et il explique, il comprend ce sutra. Et il explique à la famille de quoi il s'agit. La famille était éblouie par ça, et dit, ben voilà, on a un autre sutra, tu peux le lire et nous raconter. Et il dit, ben je ne sais pas lire. ils sont très étonnés, ils invitent d'autres gens pour l'entendre parler, etc., etc. Finalement, il reste là un peu, mais son intention, c'est toujours de trouver quelqu'un qui peut lui enseigner plus sur ce qu'il a, ce qu'il sent. Et donc, ils sont là, et il demande à ces gens, et quelqu'un lui recommande un monastère, ou il y a un maître, etc. Et donc, il arrive là, il est très pauvre. À l'époque, les monastères généralement étaient réservés aux gens d'élite, éduqués, ou qui avaient de l'argent, qui pouvaient donner pour l'argent, les donations au monastère, etc. Mais il rencontre le maître, et le maître lui dit « Tu viens d'où ?» Et il dit « Je viens du... je viens du sud. » Du nord, non, je viens du nord. Et le maître, et à l'époque, c'était considéré que les gens du nord étaient des rustes, les pauvres gens qui n'étaient pas éduqués, qui n'avaient pas le vrai zen, etc. Et Et donc le maître dit, ah, bah, tu viens du Nord, comment tu peux prétendre réaliser quoi que ce soit? Et c'était un test. Et il dit, le jeune dit cette phrase qui est devenue célèbre dans la pratique, c'était que dans la vie de tous les jours, il y a des gens du Nord et du Sud. Il y a des imbéciles et des sages. Mais sur la voie, il n'y a pas de patriarche qui vient du Nord ou du Sud. C'est-à-dire que sur la voie, entre guillemets, dans l'absolu, il n'y a pas Nord ou Sud, il n'y a pas imbécile, sage. Tout est un. Et le maître voit qu'il y a quelqu'un, ce type-là, ce jeune, il est très, etc. Et donc il dit, ok, tu peux rester, mais tu restes, tu sais même pas qu'il travaille dans la cuisine, il travaille dans un petit cabane dehors à nettoyer le riz, c'est son boulot. Il reste là, le maître a l'intention de chercher un successeur, et donc il dit qu'il va faire un test et que tout le monde dans le monastère pourrait écrire un poème, chacun qui veut écrire un poème, pour montrer ce que c'est leur compréhension, où ils en sont dans leur pratique. Tout le monde est terrifié par cette idée, sauf le moine le plus ancien, le moine en chef, qui, tout le monde est d'accord que c'est lui qui connaît mieux, qui est plus avancé, qui est plus sûr, etc. Et lui aussi, il est convaincu de ça, et donc il écrit un poème. Et il va l'amener au maître, mais chaque fois qu'il vient, il est terrifié à l'idée de le présenter au maître. Il fait 3 tentatives et à chaque fois il retourne à sa chambre parce qu'il a peur. Donc il dit, bon, je vais l'afficher, je ne vais pas le signer. Si le maître trouve que c'est extraordinaire, que c'est ça, je vais avouer que c'est moi. Si le maître trouve que ce n'est pas bon, je pars. Je vais me réfugier à la montagne, je vais devenir ermite et je vais creuser, je vais regarder ce qui est, ce qui ne va pas, etc. Le maître le voit, il trouve que c'est très très bien, il sait que c'est, donc tout le monde sait que c'est le moine en chef qui le fait, etc. Et dans le jardin, dans son petit coin, le jeune homme entend un moine qui parle de cette histoire. Et donc il lui demande de lui réciter le poème. Et il le récite. Et le jeune, il dit, oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est pas tout à fait ça. Et l'autre lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais même pas lire. Tu es là, trier la riz toute la journée, laver la riz, mais tu... n'importe quoi. Et finalement, il réfléchit et il demande à un autre garçon, un autre jeune qui travaille dans la cuisine, mais qui sait lire et écrire, à écrire son poème sur le mur. Et donc, j'ai les 2 poèmes. Et le maître, finalement, le voit. Et... est-ce que j'ai pu le trouver aussi? Et il dit, ah ben voilà, c'est ça. Et il sait qui c'est. Il comprend que c'est lui. Attends, est-ce que c'est... donc le premier poème, malheureusement c'est en anglais, mais le poème du moine en chef, c'est The body is the tree of enlightenment. The mind is like a bright mirror stand. Wipe it clean over and over and do not let the dust gather. Donc, le, il faut, son idée, c'est que mon intention, c'est de constamment nettoyer, pour que tout soit clair, que je sois clair, que je vais rester dans une ouverture, que je vais être illuminé. Il faut nettoyer tout le temps, avec la pratique, etc. Le poème du petit du jeune homme illettré, c'est Enlightenment is essentially not a tree. L'autre avait dit, the body is the tree of enlightenment. The bright mirror is not a stand. L'autre avait dit, the mind is like a bright mirror stand. From the beginning, not a single thing exists. Where can the dust collect? Alors, quand tout le monde a vu ça, ce deuxième poème, ils ont dit, voilà, ça c'est vraiment le poème d'un bodhisattva vivant. Ça c'est vraiment quelqu'un de réalisé qui a fait ça. Et le patriarche, il comprend, il sait que le chef, le maître comprend qu'il a écrit. Mais il dit... la personne qui a écrit ça n'a pas encore vu son visage originel. Et il n'en a vu pour rien. Parce que, après, pendant la nuit, ils viennent chercher le jeune, rencontrer le jeune, et ils demandent, et ça c'est, ça a à voir avec notre histoire d'intention, ils demandent au jeune, est-ce que le riz est blanche? Et les jeunes répondent, oui, c'est blanche, mais ça n'a pas encore été sifted, trié,
tamisé.
Voilà. Et à ce moment-là, le maître fait venir le jeune à sa chambre et lui a donné ce qu'on appelle la transmission, etc. Et l'avait demandé de partir. Parce qu'il savait que s'il restait, les autres allaient le tuer. Parce que c'était un... ou risquer de le tuer. Parce que c'était pas un moine. Normalement, il fallait être moine. Il était illettré. Il faisait pas partie de leur communauté. C'était très réglementé, cette histoire de transmission, etc. Et donc, il risquait d'être tué, le gars. Et donc, il avait dit de partir. Il l'a accompagné jusqu'à la rivière. Mais il avait donné la robe et le bol, ce qui symbolise la transmission. Et il avait dit, tu es mon successeur. Alors, à la suite de ça, les autres, ils ont appris ce qui s'est passé. Et ils sont allés, il y en avait un petit comité, un peu comme les westerns, ils ont allé les chercher, ils sont allés à la poursuite. Et à la tête de cette équipe, il y avait un moine qui s'appelait Mio, le moine Mio. Et ils ont couru après lui pendant je ne sais pas combien de temps, des jours peut-être, et finalement ils l'ont attrapé. Et donc le maître, le nouveau maître, le jeune homme, a mis le robe de Bouddha qui symbolisait la transmission et le bol de Bouddha qui symbolisait la transmission et l'a mis par terre et a dit prenez-les si vous pouvez, si vous voulez. Et le moine Mio donc il avance et puis il n'arrive pas. Bon, on dit, parfois dans ces histoires, on dit qu'il n'arrivait pas à le bouger, etc. Mais le fait est qu'il arrivait là et il s'est rendu compte que ce n'était pas ça qu'il cherchait. à ce moment-là, il ne pouvait pas le prendre. Et il disait, donc, à l'autre, il dit, c'est pas ça, je ne suis pas venu pour chercher ça, finalement. Je suis venu pour, bon, il a dit le dharma, l'enseignement. Et donc, il dit, enseigne-moi, donne-moi, dis-moi de quoi il s'agit, etc., au nouveau maître. Et le maître, lui, le jeune homme, nouveau maître, lui dit, avant une pensée de bien ou mal, donc il est toujours dans cette histoire de, il n'y a pas de nord et du sud, quel est le vrai visage du moine Mio? Donc c'est le moine Mio, et il adresse ses paroles. À cet instant-là, on dit que le moine Mio... très forte réalisation de qui il était et a demandé au nouveau maître d'être son maître. Et le nouveau maître dit, si tu as réalisé vraiment ce que tu dis que tu as réalisé, nous avons le même maître et il faudrait que tu retournes étudier avec ton nouveau maître. Cette histoire du riz qui n'est pas encore tamisé, on peut voir ça comme il a réalisé quelque chose, les deux, donc le moine Mio et le jeune, il s'appelle Winang, le maître qui, le sixième patriarche, le jeune homme illettré, ont réalisé quelque chose. Mais ce n'était que le début. Et l'intention, c'était de tamiser, de continuer de travailler, d'approfondir ce qu'ils ont réalisé. Que c'était juste un aperçu. Que oui, le riz est blanc, mais ce n'est pas tamisé. Parce que je ne sais pas exactement comment ça marche le riz, mais il faut vraiment le laver, le tamiser. C'est en faisant le... c'est le tamissage, donc c'est en le tamissant ou le verbe. Bon.
Tamiser, c'est pour séparer les petits les graviers, je crois.
Oui, c'est ça. Et peut-être que c'est en faisant ça que le riz blanc va apparaître. Donc, dès l'origine, le riz est blanc, mais il faut le tamiser. Et. Le moine Mio, donc, il voit quelque chose de cet ordre aussi. Il voit ce que c'est qui il est à cet instant. Mais le jeune homme sait que ce n'est pas lui son maître. Que ce n'est pas lui, c'est pas à lui de... Il doit continuer à tamiser lui-même. Et en fait, il va disparaître pendant, je crois que c'est 30 ans ou 25 ans, je ne sais pas. 15 ans, peut-être, je ne sais pas. Bon, il disparaît pendant des années. Et il vit avec des SDF, l'équivalent de l'époque. C'est un mendiant, il vit dans les forêts, etc. Mais il va réapparaître, on va le retrouver. Ils viennent à un monastère, ils passent devant un monastère, et il y a deux moines qui disputent, qui sont engagés dans une conversation féroce. Et il arrête pour demander de quoi il s'agit. Et il y a un moine qui dit, moi, je dis que c'est le drapé. Il y a un drapeau qui est en train de bouger comme ça. Avec le vent. Et il dit, moi, je dis que c'est le drapeau qui bouge. Lui, il dit que c'est le vent qui bouge. Et donc, ils sont en train de disputer ça. Et le... apparemment l'SDF de passage dit c'est pas le drapeau qui bouge, c'est pas ton esprit qui bouge, c'est pas le vent qui bouge, c'est votre esprit qui bouge. Et les moines sont bouche bée et il invite l'SDF à venir dans le monastère, il donne à manger et il raconte cette histoire à leur maître. Le maître fait venir les gars et ce sixième patriarche est devenu légendaire. C'est un peu comme, je sais pas qui, des gens mystérieux qui disparaissent et on ne sait pas où ils sont, et donc ça devient une légende. Un tel a disparu, on n'a jamais trouvé. Donc il était un peu comme ça. Et donc ce maître l'interroge un peu, et finalement, parce qu'il pense que c'est lui, et donc finalement il admet que c'est lui. Il a été attiré, oui, c'est lui. Et donc il va rester là, il va être ordonné moine par ce maître, et il va commencer à enseigner, etc. Ça, c'est son intention à rester tout le temps, par contre. Son intention était toujours de continuer de tamiser, et probablement jusqu'à la fin de sa vie. Continuer de tamiser.
Et entre tamiser et nettoyer le miroir,
ben, c'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que justement, on a l'impression que c'est peut-être une contradiction. Mais si on regarde, il ne dit pas qu'il faut le nettoyer. Il ne dit pas que c'est sale. Il dit, parce que pour lui, il n'y a rien dès le début. Il n'y a pas une seule chose dès le début. Ça n'enlève pas le fait que le riz est déjà blanc, disons. Ça n'a pas besoin d'être dans son... disons qu'on dit que tout le monde est un Bouddha, mais c'est comme un grain, comme un potentiel, disons. Mais il faut cultiver, il faut travailler, etc., etc. C'est pas une histoire de nettoyer ou enlever, mais c'est très intéressant, cette observation. Et le poème du premier n'est pas mauvais, et le premier va devenir le deuxième successeur de ce maître, d'ailleurs. Et il va avoir tout un... Il y aura deux écoles à la suite de ces deux grands maîtres, de ces deux successeurs. Il va avoir deux écoles qui vont pratiquer différemment. Le premier, ce qui est curieux, c'est que le premier va prôner plutôt...
Le premier, le jeune?
Non, le...
Le vieux?
Enfin, le deuxième successeur, mais qui est le moine en chef qui a écrit le premier poème. Lui, à la suite de son lignée, va être plutôt dans l'illumination silencieuse, ce qu'on appelle l'illumination silencieuse, où on fait rien, juste s'asseoir. C'est vraiment rien, faire rien. Enfin, c'est il y a une pratique, on fait zazen, etc., etc. Tandis que l'autre, on pouvait penser que ça pouvait être lui qui dit on fait rien, mais non, c'est lui, il est plutôt dans l'action. Ça va donner lieu au Coran et tout ça à la suite. Et donc on pouvait avoir l'impression qu'il y a une contradiction, mais il n'y en a pas, en fait. Ils viennent du même maître, en fait, les deux. C'est juste deux aspects d'une même chose. Nous, dans notre lignée, viennent du Huinan, du sixième patriarche. Et d'ailleurs, la transmission, on fait la cérémonie et tout ça, à minuit, en privé, on donne une bol et une robe et tout ça, parce que c'est ce qui a été fait ce soir-là avec le sixième patriarche. C'est pour garder la même forme, si vous voulez. Mais dans cette forme est un fond qui est la même intention, disons. Tout ça pour lier nos intentions. Bon, j'avais donné des exemples de conduire de San Francisco à Seattle, ou à Chicago, où il y a le lac, etc. Mais on peut avoir les intentions qui vont nous importer d'une façon essentielle, pas juste concret pour aller de point A à point B. Selon ce qu'on dit, ça nous demande de regarder qu'est-ce qui est plus important pour moi. Donc pour l'année à venir, qu'est-ce qui est plus important pour moi? Qu'est-ce que je souhaite pour moi-même, pour les autres, pour le monde? Il y a aujourd'hui, dans le monde, et surtout aux États-Unis, il y aura des grandes marches des femmes encore. C'est comme elles ont fait l'année dernière. Et elles ont chacune, ou ils, il y a des hommes aussi qui le font, hein, mais, heureusement d'ailleurs, ils ont chacun une intention avec ça. Il y en a qui vont juste parce que leurs copines y vont, hein, certainement. Je sais que mon frère, qui dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, moi j'ai toujours pensé qu'il était très militant contre les guerres, pour les libertés, etc., etc. Mais il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années, il me dit, mais non, c'était pas du tout ça. Non. Je voulais juste faire la fête et être heureux avec des copains. Je pense que c'est pas tout à fait vrai, je crois. Le jeune homme qui avait 20 ans était aussi motivé par cet élan de changement. Il voulait pas faire la guerre, etc. Il avait échoué jusqu'à là. C'était pas juste parce que ses copains le faisaient. Mais j'imagine que oui, il y avait ça aussi. Mais peu importe, est-ce que en faisant ça, je fais du mal ou est-ce que je fais du bien? Enfin, est-ce que mon intention, c'est de ne pas blesser les autres avec mes paroles? Est-ce que quand je vais manifester dans la rue, est-ce que c'est mon intention, c'est de mettre en action mes intentions, mes désirs. Je me plains tout le temps de Trump, mais je ne fais rien. Donc ça, c'est une façon de... Mon intention, c'est de mettre en œuvre, de faire quelque chose, de prendre une action qui va avec mes paroles. Quand je me plains, quelle est mon intention avec des plaintes? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ou est-ce que je veux plutôt être constructif plutôt que de destructif? Je sais pas, il y a différentes façons de formuler ça. Question ou
et pour revenir à l'histoire, c'est je crois que tu l'as dit un peu, mais c'était quoi l'intention de Huineng quand je veux dire, c'était quoi son intention dans dans la pratique, quoi? Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Je ne sais pas si on peut dire quelque chose, mais voilà, tamiser le riz, c'est quoi? C'était une manière de dire son intention, mais qu'est-ce que c'est?
Oui, je pense que on peut interpréter d'une certaine façon, on peut regarder les faits, parce que c'était un véritable personnage, et c'est historiquement, c'est des faits plus ou moins. On peut les regarder et, comme toute histoire, essayer de voir des choses dedans. Et je pense que son intention au début, quand il a entendu la première fois les phrases sur le marché, son intention c'était de comprendre ce qu'il a vécu en entendant ça, de de vraiment approfondir cette compréhension de ce qui résonnait en lui.
En entendant le truc du tout début, là,
oui.
C'était
Raise a thought without a support, ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Et ça le résonnait, mais ça n'avait pas de sens, il ne comprenait pas, je crois. Et donc il voulait poursuivre ça et comprendre et trouver quelqu'un qui pouvait lui dire plus, ou, etc. Et je pense que ça a continué pendant un certain temps, cette intention, c'était de trouver quelqu'un. Je pense qu'on peut dire que quand il est venu dans cette famille, je crois que c'était une famille, ou une ferme, ou il y a une petite communauté, ou tout, je ne sais pas, on l'a invité à parler aux autres, son intention, c'était certainement de partager ce qu'il sentait avec des autres, de répondre à leurs demandes et de partager ça. Mais son intention originelle était toujours là parce qu'il sentait qu'il y avait des choses qu'il ne comprenait pas et qu'il voulait approfondir et qu'il est arrivé à une limite à ça. Et donc son intention était de toujours continuer ça. Peut-être même, puisqu'il a eu cette expérience que les gens lui posaient des questions et parlaient, son intention, peut-être que ça a évolué en étant « je veux approfondir ça » pour pouvoir mieux partager avec les autres, pour mieux répondre à ce qu'on me demande. Et il continuait ça, et puis donc quand il était dans le monastère, son intention c'était encore d'approfondir, parce qu'il était toujours à l'affût de ce que les moines disaient, et quand il, de nouveau, il y avait quelque chose qui résonnait, qu'il voyait, il avait envie de le partager. Il n'a pas signé, il n'a pas mis son nom en bas de ce poème, donc ce n'était pas pour son propre gloire qu'il le faisait. Je ne sais pas, peut-être qu'il y avait quelque chose de ça, mais on n'y est pas. Mais probablement, c'était, il y en avait, mais probablement ce n'était pas le plus important. À la suite, donc, quand le maître reconnaît et... il a envie, son intention, c'est de continuer de tamiser. Et d'une certaine façon, le tamiser, c'est sans fin. Parce qu'il y aura toujours d'autres riz. Et il sait que c'est pour... On dit une phrase, un truc du genre... sur le chemin... on est toujours en train de monter des montagnes, et plus on avance, plus les montagnes deviennent plus haut. Tu as entendu ça aussi? Non.
À un moment donné, c'est ce qui se passe.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Ouais, jamais le bout.
Exactement, c'est ça. Et les bénéfices ou les mérites, bon, puisque, mais il n'y en a pas, mais parce que c'est sans fin, c'est comme l'océan. Ça devient de plus en plus profond, mais c'est sans fin. Donc, tamiser, c'est sans fin. Son intention était de tamiser, mais c'est sans fin. Il s'en va parce qu'il sait qu'il doit continuer d'approfondir, et son maître lui a dit de s'en aller, il fait confiance à son maître, et, etc., etc. Et il va vivre avec des gens ordinaires comme lui. Et on dit qu'il enseignait, entre guillemets, à ces gens, les illettrés, les clochards, les vagabonds, les gens qui vivaient sous les ponts, etc. Et on dit qu'il enseignait à ces gens-là. Mais probablement pas en récitant les sutras. Puis, quand ils viennent à ce monastère... probablement c'était juste l'intention de, il voit que ces gars-là sont en conflit, et pour soulager ce conflit il dit sa compréhension de la situation, et puis ensuite c'était de rester, de continuer de faire ça. Je pense qu'il était profondément motivé par ce qu'on appelle le vœu du Bodhisattva, c'est de, c'est de... puisqu'il voyait l'unité de toutes choses et de tout être, sa motivation était de ne pas laisser quelqu'un sur le côté. Mais ça, c'est l'une des interprétations de l'histoire, l'historienne. Mais je ne vois pas vraiment ce qui pouvait être d'autres motivations dans ce contexte, dans ces faits tels qu'ils sont, tels que les faits sont présentés. Je ne sais pas. Les intentions changent aussi. Je peux dire, ok, bon, bah, j'ai l'intention de gagner beaucoup d'argent. Mais est-ce que mon intention, c'est de gagner beaucoup d'argent pour moi? Peut-être à un moment, c'est ça. Peut-être quelqu'un qui. Et puis, quelque chose va lui arriver, il va ouvrir ses yeux à l'unité, à l'interdépendance, à les inégalités, et il veut gagner beaucoup d'argent pour le donner aux autres, pour faire du bien pour les autres. Ses intentions peuvent changer. Nos intentions peuvent changer.
Mais après, si on dit que son intention, c'est d'être de suivre la voie, on peut le dire autrement, est-ce que ça n'englobe pas finalement toute autre intention?
Ben, ça dépend comment on formule suivre la voie. Et c'est comme avec tout, qu'est-ce qu'on dit, the devil is in the details, ou parfois le diable est dans les détails, mais Dieu est dans les détails aussi. Et donc c'est important d'être
précis.
Donc ça veut dire quoi suivre la voie? Ça veut dire être attentif à. Je sais pas. Mes actions, ça veut dire prendre les préceptes, ça veut dire, je ne sais pas, c'est quoi suivre la voie. Et nos actions vont être directement influencées par nos intentions. Il y a un lien. La manifestation de nos intentions et nos actions. Donc, on va arrêter là parce qu'il faut faire à manger et nettoyer. Si je vous propose d'essayer de faire ça là, cet après-midi ou demain, et demain, pendant l'assise, c'est de, ok, quelles sont mes intentions? Et ça, je répète, ça peut être dans la pratique, ça peut être dans notre travail, dans notre famille, dans le monde entier, dans la ville. Quelles sont mes valeurs les plus chères? Qu'est-ce que je souhaite pour moi, pour les autres, pour le monde? Et puis essayer de formuler ça, et enfin rester avec ce questionnement, et puis essayer de formuler ça. Les Tibétains disent que c'est une pratique, et donc que je simplifie un peu, mais que une fois qu'on a vraiment mis en pratique cette pratique, on peut le faire dans 3 minutes. Mais nous, c'est pas ça. Parce que nous, on ne cherche pas un résultat, on cherche à juste le faire. Donc, donnez-vous le temps de rester avec des questions, de chercher quelles sont mes intentions, mes plus profonds désirs, souhaits, etc. Et restez avec ça. Ok, merci. Donc toi, tu vas coordonner la cuisine. Moi, je vais monter, montrer à Dale.